Les Entailles d'Evento. Evento, c'est une biennale internationale d'art urbain à Bordeaux et chaque jour jusqu'au 18 octobre à 11h sur les ondes de Radio Grenouille et de Radio Campus Bordeaux, un plateau radio en public. Aujourd'hui, l'unité mobile s'est installée sur les bords de la Garonne, pas très loin du CAPC. Le CAPC, c'est un musée d'art contemporain et il accueille jusqu'au 12 février une exposition qui est intitulée « Étrange et proche » et bien entendu, nous allons en parler tout au long de cette émission. Un espace public qui est aussi le terrain de jeu de Castello di Rivoli, qui est aussi un musée d'art contemporain, mais lui est situé en Italie, près de Turin, et qui, à l'invitation d'Evento, propose « Ville en commun ». C'est un ensemble d'ateliers et d'actions qui se situe pour l'essentiel dans l'espace public de Bordeaux. Au démarrage de cette émission, on va accueillir une nouvelle chronique. C'est la leçon de géographie absurde du professeur Jérémy Garniaud.
Bonjour Xavier et bonjour à tous. Alors prenez vos stylos, ouvrez vos cahiers et moins de bruit dans le fond, sinon c'est l'interro Flash Express pour tout le monde. Pour commencer par le début, pour cette première leçon, comme tu disais, de géographie absurde, penchons-nous sur le cadre qui est le nôtre. J'ai nommé Evento. Evento donc est une biennale d'art urbain. De quoi s'agit-il en réalité et surtout à quels enjeux géographiques cela renvoie-t-il? En bons adeptes de la méthode hypothético-déductive, nous partirons du fil conducteur de l'événement, l'art pour une réévolution urbaine, pour tenter de dénouer les fils et formuler une assertion géographique digne d'intérêt. La juxtaposition dans cette phrase des termes art et urbain est loin d'être fortuite. L'observateur avisé aura constaté que le festival regroupe dans un même mouvement artistes et architectes, urbanistes et plasticiens, les uns se nourrissant des propositions des autres, les autres s'inspirant des méthodes des premiers, et vice-versa. Ces échanges entre praticiens de disciplines artistiques et professionnels de la ville, ou de l'urbain même, ces échanges donc se font de plus en plus fréquents ces derniers temps. L'urbaniste Françoise Chauet a parlé un jour du règne de l'urbain et de la mort de la ville. Il me semble que nous tenons là un début de réponse à la question que nous nous posions plus haut et que, distrait comme vous l'êtes, vous avez probablement oublié. Je la répéterai donc. À quels enjeux géographiques Evento renvoie-t-il? Eh bien, l'étalement urbain et l'aménagement métropolitain posent de sérieux défis d'appropriation de la ville par ses habitants. Lorsqu'on habite, par exemple, à Bègles, qu'on travaille à Pessac et qu'on va rendre visite à sa fille qui habite à Grand Parc, c'est bel et bien à un problème d'échelle qu'on est confronté. Les parcours se font en voiture ou en transport en commun et sûrement pas à pied. Un vieil adage circule dans la communauté géographique qu'on attribue tour à tour à Raoul Blanchard, à Élisée Reclus ou à Philippe Pinchemel, qui affirme que la géographie, ça s'apprend avec les pieds. Une façon peut-être de souligner que pour quelqu'un dont le métier est d'aménager ou de penser le territoire, il est important d'arpenter et essentiel de ressentir. On comprend alors mieux les nombreux partages d'expériences entre le monde de l'aménagement et celui de l'art. Question d'échelle, question de pied ou question d'arpent, en géographie, tout est dans la mesure. Voilà l'assertion digne d'intérêt que nous cherchions. Pour demain, 10 lignes de pied, 10 lignes d'arpent. Je vous remercie de votre attention. Vous pouvez y aller et sortez sans vous bousculer, s'il vous plaît.
Mesure et démesure de la mesure, c'était la première leçon de géographie absurde du professeur Jérémy Garniaud. Dans quelques secondes, on va pouvoir démarrer avec le Castello di Rivoli. Mais d'abord, une petite page de publicité, puisque je vous le rappelle, la société Evental sponsorise nos plateaux.
Fun, cool, refreshing. Eventi, one smooth breeze.
Un léger courant d'air frais. Effectivement, le fond de l'air est frais aujourd'hui à Bordeaux. Je vous le rappelle, nous sommes sur les bords de la Garonne, un endroit plutôt joli, très fréquenté évidemment à Bordeaux. Nous sommes face au CAPC, Musée d'Art Contemporain, face à la Bourse Maritime. La Garonne coule verte et brun derrière nous et un petit vent qui nous souffle dans le cou. On va parler tout de suite de Ville en commun, un ensemble de dispositifs qui est activé par le Castello di Rivoli. Et avec nous pour en parler, Barbara Rocci du département éducation de ce Castello di Rivoli. Bonjour Barbara.
Bonjour Xavier, bonjour à tous et merci de cette invitation. Je suis très content d'être à Bordeaux pour Evento et je partirai de ce qui a dit le professeur. La géographie s'apprend avec les pieds, c'est vraiment le point de départ, pas seulement parce que nous arrivons dans la montagne de Rivoli, c'est au début de la vallée de Souze, alors nous sommes des montagnards qui marchent avec les sacs à dos sur les épaules, mais aussi parce qu'elle me donne la possibilité de commencer à dire de quelle liaison qui nous lie à la ville de Bordeaux et à CAPC. Il part vraiment de le pied de Richard Long, qui dans l'automne de 1992, il avait fait un parcours de flux de la Garonne au Pau, de le flux Garonne au flux Pau, un parcours de 18 jours et demi à pied. Pendant ces parcours, il avait enregistré la direction du vent. Ces panneaux, ce tableau aujourd'hui est dans la collection permanente du Castello di Rivoli. Et on était très contents cet automne 2011 d'avoir fait le même voyage au rebours des Rivoli, des fleuves Pau à la Garonne. Et hier, l'autre jour, sur l'avion, on est parti de fleuves Pau, on voyait très bien, on est arrivé sur la Garonne. En pensant au pied justement de Richard Long qui avait fait ces parcours-là. Et avec cet esprit de mesurer la ville de Bordeaux et nous mesurer avec cet espace magnifique qui vraiment ils sont différents de nous, Rivoli, le château de Rivoli c'est sur un bout, c'est vraiment au pied des montagnes, à 15 km de Turin. Et cet espace magnifique de Bordeaux nous offre encore une possibilité de à pied, prendre des mesures avec l'espace, la ville, nous-mêmes, en acceptant les défis des événements.
Une œuvre de Richard Long, d'ailleurs, qui inspire un des ateliers, une des actions qui est menée ici à Bordeaux par le Castello di Rivoli. On en reparlera tout à l'heure. Mais Barbara Rocci, tu as commencé à décrire un petit peu ce qu'était le Castello di Rivoli. C'est situé effectivement à côté de Turin. On va peut-être parler tout à l'heure de ces actions, mais tout d'abord peut-être présenter ces collections.
Les Castello, nous sommes, je suis part de l'équipe du département éducation du Castello di Rivoli, qui est dirigée par Anna Pironti, qui est là pendant toute la durée des événements avec nos équipes. Dans le château de Rivoli, qui est un musée d'art contemporain, né dans le 1984, dans un bâtiment qui est un ancien château du XVIIIe siècle, dans lequel, dans cet espace merveilleux, jamais terminé, parce que le projet de château de Rivoli, là, il était dans l'histoire jamais terminé, il est un bâtiment incomplet,
inachevé.
Et alors, dans cet espace merveilleux, il y a la collection d'art contemporain qui se déroule premier et deuxième étage. Troisième étage est dans la Manica Lunga, un bâtiment absolument unique parce que la longueur, c'est à peu près 110 mètres pour 10 de la largesse. Et alors, c'est vraiment la première pinacothèque de la Maison de Savoie qui est aujourd'hui encore utilisée pour des œuvres, pour l'œuvre d'art contemporain. On est en train, demain, au château de Rivoli, il va s'ouvrir avec un vernissage de nouvelles expos, Arte Povera International et les Scatole Viventi, des living boxes, dans la Manica Lunga et dans le château. Alors, pendant que nous sommes à Evento, les musées, ils continuent sa vie et toutes ses activités avec les œuvres des artistes contemporains.
Une exposition d'Arte Povera donc au Castello di Rivoli, on comprend bien le lien, l'amitié entre ce centre d'art contemporain et puis Michelangelo Pistoletto, qui est le directeur artistique de cette biennale Evento 2011 ici. Alors peut-être, Barbara, sur l'importance de ce département éducation dans ce musée, ça n'est pas vraiment tous les centres d'art contemporain qui se dotent d'un département éducation de cette taille et avec une réflexion aussi poussée sur justement l'éducation à l'art contemporain. Alors peut-être quelques mots sur ton travail et celui d'Anna Pironti.
Ok. Alors, normalement, au musée, on s'occupe de l'accueillement de tous les publics. Alors, pas seulement les enfants, pas seulement les scolaires, mais vraiment tous les publics, les enseignants. On a reçu cet été, finalement, après beaucoup d'années de travail, les reconnaissements, les titres dans les ministères de l'Éducation nationale, des instituts titulés pour la formation du personnel de l'école. Alors, pour vous dire qu'ils ne s'occupent pas seulement des petits, des enfants, mais aussi des enseignants, de la formation pendant toute la durée de la vie avec les managers des entreprises plutôt que les adultes, les seniors et tout ça. Tout ce qui, normalement, ils font les musées en accueillant et avec un œil d'attention vers le public. Mais on a bien compris après qu'on était obligés à sortir du mur du musée pour faire connaître l'art contemporain, pas seulement à qui les musées viennent les visiter, mais qui l'art contemporain ne connaît pas et qui jamais ira au musée. Alors l'art, elle devient vraiment une expérience de la vie, pendant toute la vie, quelque chose qui passe entre les pieds des gens, quelque chose qui il dit que l'art contemporain, ce n'est pas difficile ou autre chose de nous, mais il nous concerne, il nous appartient, il peut nous parler aujourd'hui, il peut nous obliger à s'arrêter, réfléchir, parce que vraiment nous faisons beaucoup de projets ailleurs sur les territoires nationaux et internationaux pour être comme quelque chose entre lesquels les gens ils vont vraiment entre les pieds, souvent pour susciter sa réflexion, pour donner l'envie après, si on veut, d'aller au musée chercher tous ceux qui nous portent dehors. Il ne s'agit pas de refaire les œuvres d'art contemporain des artistes, ça c'est sûr. Il ne s'agit pas de refaire comme ils sont les œuvres. On n'est pas des artistes, on est des éducateurs. Il s'agit de communiquer, de porter les idées et l'art contemporain et l'expérience de l'art contemporain dans la vie de tous les jours, dans tous les gens, à tous les différents niveaux.
Alors, l'art contemporain est en perpétuelle évolution ici, dans le cadre de cette Biennale Evento 2011. Elle est intitulée Biennale d'arts urbains. Et c'est vrai qu'on voit se développer de plus en plus de formes d'art contemporain qui explorent la ville. On voit des artistes promeneurs, par exemple. C'est quelque chose qui se développe beaucoup, qui ne produisent pas particulièrement d'œuvres, mais dont l'exploration, le travail d'exploration et d'accompagnement est en soi la production d'une œuvre d'art. Alors, ton regard, Barbara Rocci, sur ces nouvelles formes d'art contemporain dans une exploration de la ville, dans un regard porté sur la ville?
On a fait un projet pour Evento qui s'appelle La ville en commun, qui pour nous, ça veut dire la ville partagée, la ville mise en commun avec tous les gens de Bordeaux, tous les gens qui arrivent à Bordeaux pour Evento, avec lesquels on peut partager une expérience de l'art. On a commencé hier avec le Troisième Paradis, un hommage à Michelangelo Pistoletto, et on ira terminer avec la même chose, mais au Grand Parc le dernier jour. Hier, on était au Miroir d'eau. On a bien aimé d'ouvrir con un hommage à Michelangelo Pistoletto qui l'a nous invité à Evento. Et là, on a construit avec tous les gens sur les miroirs d'eau ce troisième paradis qui, selon l'idée de l'artiste qui...
Ah, peut-être deux mots pour expliquer le premier paradis, le second,
oui,
le troisième.
Oui, c'est ça. Il y a un livre qui est à peine sorti en français qui, vraiment mieux que moi, elle peut à tout le monde expliquer bien quelle est l'idée de l'artiste vers cette question de troisième paradis, qui est un signe, un cercle qu'il va se poser au milieu du signe de l'infini pour nous dire qu'il est essentiel de trouver aujourd'hui un nouvel équilibre entre premier et deuxième paradis, entre les premiers paradis, qu'il était l'Éden, qu'il était le paradis quand l'homme et la nature marchaient très bien ensemble, et le deuxième paradis, qu'il était le paradis où l'homme il s'est éloigné de la nature.
Le paradis artificiel.
Oui, le paradis artificiel, qui des fois, et on voit très bien, des fois, devient un enfer, l'enfer que des jours on vit dans ces moments historiques. Et pour ça, la nécessité de trouver un nouvel équilibre entre les deux, les deux, et pour ça, un cercle qu'il va s'inscrire comme un ventre maternel qui peut générer un nouvel paradis, un nouvel futur, une nouvelle humanité. Et on a ouvert ça hier comme première action dans le projet de la ville en commun. La réflexion sera sur la ville à travers la ville modulaire, à travers les wall drawings que nous ferons au Grand Parc, à l'école de Saint-Rémy.
On va peut-être reparler tout à l'heure détail de ces différents dispositifs, mais toujours dans leur esprit général. Sur la rencontre avec le public auquel vous vous adressez, c'est le passant qui passe ou vous êtes adressé plus particulièrement à certains publics ciblés?
Alors, bien sûr, à tout le monde qui passe. Hier, il était sur les miroirs d'eau, les Bordelais, mais aussi il était beaucoup de touristes en visite en ville qui ont été mis en action avec nous pour faire le troisième paradis. On a fait une formation au mois de septembre. On a rencontré en avance les enseignants parce que pour nous, la formation est important pour expliquer les projets, pour partager les projets, pour comme point de départ pour se retrouver sur les places. Alors les activités elles vont prendre bien sûr tous les gens qui passent, mais aussi les gens qui viennent former aujourd'hui pour les ballots. Beaucoup de classes y sont arrivées avant déjà travailler à l'école avec déjà tous les mots qu'aujourd'hui on a formés avec les longs cordons d'aluminium. Alors il a déjà fait un travail suscité par la formation et par le projet partagé. Et ça, c'est tout le temps aussi pour tout ce qui passe, pour tous les projets que nous allons faire, une chose très importante de partir avec la rencontre avec les gens pour point de départ, pour développer après les projets, mais aussi pour se rencontrer, pour pas que les choses ils passent seulement une fois et s'arrêtent là. Mais c'est vrai aussi que les choses, les activités, elles passent comme des choses extraordinaires dans des journées ordinaires. Hier, on a fait le troisième paradis comme action collective. C'était une action extraordinaire, il pleuvait, tout le monde était là. D'un moment, on avait l'idée comme d'être sur un bateau, sous la pluie, avec les grands cordons d'aluminium, avec le miroir d'eau sous nos pieds. Mais la ville, c'était une journée ordinaire pour la ville. La ville, c'est pas tout arrêté pour ça. Et alors, quelque chose qui est passé comme quelque chose d'extraordinaire dans une journée ordinaire et qui peut changer nos visions de la ville, nos visions de la participation active à ce qui passe.
Bien, justement, les passants qui passent, nous sommes passés vous voir sur ce miroir d'eau et enregistrer un petit son à l'occasion de cet atelier. On va l'écouter.
Alors là, on est en train de créer le troisième paradis, je crois.
Ah ben non, c'est super fort, ça, quand même.
On est trop fort.
Alors, nous sommes le musée d'art contemporain de Château de Rivoli. Et nous sommes ici pour créer une action ensemble à Michelangelo Pistoletto, artiste italien, qui nous a invités à faire partie de ce evento 2011. Nous sommes en train de préparer le troisième paradis selon l'idée de Michelangelo Pistoletto, parce que le premier paradis, le paradis naturel, qui a été créé par Adam et Eve, risque d'être déturpé et ruiné par le deuxième paradis, qui est le paradis artificiel créé de l'homme pour vivre dans la commodité, avec une barrière rispetto alla natura. Sì. Cette barrière risque de devenir dangereuse pour le paradis naturel. Et donc, on doit recréer un paradis troisième qui harmonise les deux premiers paradis. Et nous sommes comme un chantier ouvert, comme nous avons aussi voisins à nous. Il y a un chantier qui est très bruyant, mais c'est tout ensemble un chantier pour créer une nouvelle ville plus vivible et plus harmonisée entre citoyens, citoyens, citoyens et entre citoyens, nature.
On écoutait un son enregistré hier à l'occasion de cet atelier proposé par le Castello di Rivoli. C'était sur le miroir d'eau, sur les quais de la Garonne. Et on voit que l'ambiance y était excellente. Effectivement, un travail d'écriture avec une encre toute particulière qui est celle de ce papier d'aluminium. D'autres matériaux aussi pour ce travail sur l'urbain, notamment un travail avec des fils, et je pense là particulièrement à un atelier qui s'appelle Tapis Volant.
Oui. Alors, le Tapis Volant, c'est un projet, c'est le titre d'un projet qui dure désormais des 15 années dans un quartier difficile de Turin, à côté de la gare. Dans les années 15 années, il y a 15 années, les enseignants, ils avaient vraiment des soucis, des difficultés à communiquer avec tous les nouveaux citoyens de la ville qui arrivaient, qui ne parlaient pas italien, qui ne parlaient pas entre une langue qui pouvait être connue et partagée. Alors, à travers la langue de l'art, et il a demandé de nous aider en partant dans l'école, la communauté, les quartiers, à trouver une façon de communiquer comment. Et alors, il est parti en projet en partant dans l'école maternelle, qui s'est développée après jusqu'à l'école, jusqu'au lycée, qu'il a pris tous les quartiers, parce qu'on a fait en même temps de l'activité dans les écoles, aussi les fêtes de quartier pour aller à partager les projets et l'art avec tous les gens qui l'habitaient. Comme on dit souvent à Napironti, c'est pas une que nous occupons d'art et d'éducation. On n'a pas une baguette magique pour changer du moment les problèmes importants du monde, mais à travers l'art, comme dit Michelangelo Pistoletto, l'art peut être moteur des transformations sociales responsables, alors peut aider aussi des situations comme ça. On a pris ce titre Tapis Volant pour présenter à Bordeaux, en partant de le filet de chantier, en partant d'un matériel qui sont utilisés pas vraiment normalement dans l'ambiance de l'art, pour aller tisser pendant les jours des nouvelles tapis, des récits, nouvelles, des narrations. Les tapis, c'est un objet quotidien qui occupe une surface, qui occupe le sol, qu'il va dessiner, mesurer un espace. Alors, c'est une autre façon de mesurer la ville, comme on disait avant le professeur. Et en partant dans ces filets de chantier, il sera tissé des nouvelles relations. Tout ça parce que les mots, exactement comme les mots français, tissés, exactement comme les mots italiens, ils viennent du latin textum, qui ça veut dire tissé entre trama et ordito, vertical et horizontal, une narration, un tissu. Et de là, on partira à niveau métaphorique pour dire qu'on peut tisser des relations sous un filet de chantier. Alors, un chantier en progression, un chantier work in progress, qui nous donne la possibilité de faire des nouvelles narrations avec tous les gens qui participeront à cette action collective. Tisser des narrations entre les gens en tissant des fils, des couleurs, des tissus différents pour faire une action qui est à un niveau symbolique, il veut dire les nouveaux tissus sociaux qui vont être tissés à partir de ces matériels-là. Je ne sais pas si je suis réussi à bien vous expliquer, mais
c'était en tout cas très clair pour nous sur cette nécessité, sur cette importance de connecter, de tisser des relations entre les gens, sur cette importance de la médiation, de la relation entre les œuvres et le public, de leur activation dans l'espace public. On va écouter tout de suite un second petit reportage enregistré hier par Nelly Fleischer et Julie Demuer. Un bureau d'information d'Evento, et on va voir que la médiation, c'est pas toujours si simple.
Excusez-moi, on cherche le point info Evento.
C'est tout droit et à gauche.
Bonjour. Vous voulez savoir maintenant, tout de suite?
Ce qu'il y a
quoi?
Alors là, il est quelle heure?
Il y a l'activité au miroir d'eau, mais oui. C'est un truc pour les enfants, ça.
Après, sinon, vous allez à rue Camille Sauvageau aussi. Vous allez avoir, là, cet après-midi, il y a un concert sourd en fin d'après-midi. Pardon, désolé. Un concert sourd en fin d'après-midi. Sinon, après, vous avez ce soir l'inauguration place de la Comédie. Bonjour.
Le truc à voir. C'est quoi exactement?
Evento.
What?
Alors ici c'est un point info Evento.
Ce soir devant le grand théâtre, ce sera bien, je pense.
Je suis grec.
D'accord.
Hello, madame.
Alors je suis d'origine française, grecque et comédien de formation, voilà. Alors j'ai entendu parler d'Evento, je ne vais pas vous déranger, là j'arrête comme un éléphant.
Ah non,
vous
en prie, on vient s'informer.
On
vient faire
la même chose,
nous-mêmes,
on peut s'informer à trois au lieu de s'informer à deux.
Et alors c'est ce soir.
Donc là, voilà, c'est ce que je leur ai expliqué, ça a déjà commencé cet après-midi, et ce soir, vous avez le théâtre d'inauguration.
D'accord, au Grand Théâtre.
Oh, voilà, Place de la Comédie, à 21h.
Ok, moi je suis intéressé par le métier de la Comédie.
C'est un concert. Non, c'est un du théâtre.
C'est un concert. Il y aura de la...
Non, mais il y a de la musique, mais c'est... Oui, il y a de la musique, de la danse, du son et de la lumière.
Vous avez vu, vous avez regardé un peu ou...
Très peu, parce que pour l'instant, nous, on s'occupe que de la médiation, donc c'est sûr que les spectacles, on n'a encore jamais vu les artistes, voilà. Ni même des répètes.
C'est qui comme artiste, si je m'abuse?
Pippo Del Bono.
D'accord.
Ce soir.
Daniel.
Voilà, au théâtre. Voilà.
Vous êtes assis de coup, à tout hasard?
Non.
Ah bon.
À on Icar. Est à Icar.
De coup, comment?
Icar.
C'est-à-dire
C'est une école d'art qui a la Cité Mondiale du Vin. Voilà, en fait, l'école touche plus soit dans le côté vraiment culturel, médiation, par exemple pour la ville, ou vraiment dans l'autre côté, voilà, hôtel de vente, galerie, musée.
D'accord.
Voilà.
Vente, ouais.
Voilà.
Avec du droit, de la gestion, la compta.
Je vais vous donner ça aussi.
Bon, merci, mesdames. Voilà.
On entendait un sujet réalisé par Nelly Fleischer et Julie Demeure, réalisé et enregistré dans un bureau de médiation d'Evento. On se rend compte que ce n'est pas forcément si simple de communiquer au public la nature et la teneur des événements de cette biennale internationale. Je vous rappelle que vous écoutez Radio Grenouille et Radio Campus Bordeaux et que nous sommes en public pour ce plateau Éventail d'Evento. Alors, une équipe de médiation sur l'interface entre les propositions d'Evento et le public, c'est l'occasion d'une transition avec l'exposition qui est présentée au CAPC et qui est intitulée « Étrangers proches ». Et peut-être avant de l'évoquer avec Galit Eilat, qui est commissaire associé de cette exposition, et aussi Charlotte Lobard, qui représente le CAPC, je vous propose quelques mots ensemble, peut-être avec Barbara Rocci aussi, sur l'importance de cette question de la médiation. Alors peut-être, elle est évidemment essentielle pour tous, comment est-ce que vous l'abordez au CAPC, Charlotte Lobard?
La médiation, c'est quelque chose sur lequel le CAPC a été pilote depuis sa création en 1973. Je crois que c'est une des premières institutions en France à avoir mis en place des programmes éducatifs pour effectivement faire mieux connaître cet art qui était émergent et qui n'était pas forcément compris par les gens. Cette fois-ci, donc, depuis plus de 30 ans, le CAPC a des programmes éducatifs assez conséquents. Mais il faut toujours se remettre en cause. Et cette invitation faite par Evento au Van Abbé Museum était une manière pour nous aussi de regarder la pratique de la médiation, parce que le Van Abbé Museum a beaucoup œuvré sur des expériences envers les publics qui mettent en place depuis 5-6 ans. Et il y avait des choses qui nous semblaient tout à fait étonnantes et qu'on avait envie d'expérimenter.
Alors avant d'écouter dans quelques instants Galit Eilat présenter justement le Van Abbé Museum, dont elle est un des membres éminents, peut-être sur cette question de la médiation, la philosophie du Castello di Rivoli, on vient de l'entendre dans la bouche de Barbara, c'est d'éduquer à l'art, par la pratique de l'art. Qu'est-ce que vous en pensez, Charlotte Lobard?
Nous, Bien sûr, nous aussi, nous avons effectivement beaucoup d'ateliers de pratique de l'art qui sont aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Aussi les seniors, par exemple, on a des nouveaux ateliers d'éducation pour les seniors qui marchent très, très bien. Donc c'est assez drôle de voir des seniors se lancer à faire de la performance, par exemple. Voilà, on expérimente en permanence. Après, y a, pour nous, l'expérience de l'art ne peut pas passer que par ces ateliers de pratique artistique. Il y a effectivement des gens qui n'ont pas le temps de se consacrer à ça. Donc nous mettons en place d'autres outils pour permettre de tisser des liens, comme dit Barbara, avec ces personnes-là. Et là, je pense qu'il faudrait poser quelques questions à Galit Elat sur ce sujet.
Absolument, Galit Elat, on the importance of mediation, on the relationship between a museum, contemporary art museum, and the public, and how to do it.
During the I will go a bit before the exhibition here about the methods that the Van Abbe Museum developed.
Donc, elle va revenir un petit peu en amont de cette exposition ici à Bordeaux et me parler de ce que a mis en place le Van Abbe Museum.
In the previous 2 years, in the past 2 years, the museum developed certain kind of strategies that every exhibition was the platform to try different kind of mediation. In the last one, for example.
Donc, ces deux dernières années, le musée a mis en place des nouvelles stratégies de médiation. En fait, chaque exposition était un outil pour mettre en place de nouvelles actions de médiation.
In the last exhibition, in the period of the past 2 years, we asked the visitor to take a role. So they offered the role of the flâneur, the role of the worker, the role of the visitor, so each one of the a guide tour and a map provide for each one of the perception of the show. So the
juste une petite traduction. Ces deux dernières années, ils ont mis en place, par exemple, des jeux de rôle pour les visiteurs. Les visiteurs devaient choisir un rôle qu'ils allaient endosser. Donc, il y avait le rôle du flâneur, par exemple. Il y avait le rôle du travailleur. Il y avait aussi le rôle du pèlerin. Et pour chaque rôle, il y avait des outils de médiation différents.
Each role has its own mediation. So, by sound, by guided tour and by a map, and each one of the visitor have a sticker which kind of role he's taking. So the role of the worker was the last role after you pass other roles, so you can't get all the roles, or you can't get the worker in the beginning. You need to be first a flâneur, for example.
Donc, par exemple, le rôle du travailleur, c'était un rôle qu'on avait le droit d'endosser. Et à partir du moment où on avait déjà endossé les autres rôles, donc chaque rôle, juste pour répéter, avait un sound system différent, donc des audio guides, aussi une carte pour se guider dans l'exposition. Et donc, le rôle du flâneur.
In parallel to this, the museum developed a tagging system. So the visitor, when they're coming to the museum, they can tag the works near the tagging of the curator. So beside the text, the curatorial text or the explanation, it was a board that anyone of the curator gave his own, in one or two words, a keyword that connect to the work to enlarge it. And then the visitor themselves have the ability to the Cicerone in the museum to have their own impression and to leave it on the wall next to the curatorial ideas.
Donc en plus des audio guides qui étaient chacun fait pour chaque rôle, il y avait ce système de tag, donc le système de commentaires qu'on trouve aujourd'hui dans toute nouvelle technologie finalement. Donc le
tag, hein, c'est des mots clés, hein, c'est pas, on va pas taguer sur les tableaux. Hein.
Tout à fait. Donc, souvent, vous savez, dans les musées, on a des petits textes qui accompagnent les œuvres qui sont écrits au mur. Là, le visiteur avait la possibilité d'ajouter des mots sur ces textes, de manière à s'approprier non seulement ces textes, mais à ajouter du commentaire aussi.
et en plus à devenir une sorte de visiteur, d'introducteur de Cicérone, pour que d'autres visiteurs puissent encore mieux comprendre et interpréter ces œuvres qui étaient présentées. Alors on rappelle quand même, Gali Taylat, que ce Van Abbé Museum, il est situé en Hollande, à Eindhoven, et que c'est ce musée qui est l'invité ici du CAPC. On est habitué à voir un musée d'art contemporain inviter des artistes, mais là c'est un musée qui invite un autre musée pour une exposition dont l'intitulé est « Étrange et proche ». Alors je crois que c'est une formule qui est empruntée à un écrivain et philosophe américain aujourd'hui, mais d'origine indienne, qui s'appelle Homi Bhabha. Peut-être sur cette importance, Homi Bhabha est très connu pour sa réflexion théorique, notamment sur le post-colonialisme. Alors sur la place justement de cette réflexion politique post-coloniale dans l'exposition qui est présentée, On the Importance of Postcolonial Studies Made by Homi Bhabha in the Exhibition that is presented in the CAPC.
Okay, I will answer it second. I want to finish with the mediation, because we made a very interesting process here working with CAPC. The mediation group from the museum came to the Van Abbé first, to learn the strategies of the Van Abbé. People from the Van Abbé came, the same people that working on the mediation and experience design, this is how we call it in the museum, came to here first to create a strategy together that will work with this specific exhibition.
Donc, Galit voudrait revenir un tout petit peu sur la médiation, parce que c'est un processus important dans le travail de collaboration entre les deux institutions, puisqu'effectivement, l'équipe de médiation du CAPC est allée à Eindhoven, en Hollande, apprendre les stratégies de médiation de Eindhoven. Et de la même manière, l'équipe de médiation du Van Abbé Museum est venue à Bordeaux aussi travailler avec les gens de Bordeaux.
And the last thing about mediation, we talk all the time the public, but I think the mediation itself starts in the institute. So it's mean that the if it's the technician, if it's the mediation, anyone, the ticket seller, everyone first need to go to the process of understanding the work and the mediation, because they are the best mediator in the end. Not just in the exhibition's place, but also in everyday life. So this is the most important and the initial in the mediation.
Donc la médiation, c'est pas simplement la médiation avec le public. La médiation, elle va d'abord commencer par soi-même, donc c'est-à-dire c'est de la médiation vis-à-vis des gens qui travaillent au musée, les techniciens, les gens qui font l'accueil, etc. De manière à ce que eux-mêmes s'approprient le projet, et parce que finalement, ce sont eux les meilleurs médiateurs.
Since the museum invited as an artist to the museum, which is quite an interesting concept, and the way how we can relate it as two museums, we choose one of the subjects the museum dealt with in 2 years ago, which called Strange and Close. And Strange and Close developed the idea around Strange and Close, developed by the anthropologist and historian Homi K. Bhabha. And he described a murder that happened in Tutsi neighbor. He described when he interviewed this Tutsi what he said, and he say, I was nor strange nor close to this person. So he didn't have any kind of one of the two relation. So.
Donc Homi Bhabha, quand il donc l'exposition parle effectivement, ça s'inspire de cette réflexion d'Homi Bhabha. Homi Bhabha parlait dans une conférence de ce Tutsi qu'il avait rencontré, et ce Tutsi qui avait donc tué une personne, et qui racontait qu'en fait vis-à-vis de cette personne qu'il connaissait, puisque c'était un voisin, il n'avait plus aucun sentiment de relation, ni de d'être proche, ni d'être loin de cette personne-là. Donc il n'y avait plus rien, il y avait comme un espèce de blanc.
And this led us to think what we need in an enabling relation. What do we need in neighbor relation? And how we see a neighborhood? And when we talk about neighbors, so it's one person live next to the other, but it's much more extended. And we start to know how extended, like prisoner in a jail, for example. They have also by force, but they have by force a neighbor relation. What kind of relation they develop, what kind of strategy to survive they develop. So I think the word surviving, it's quite related to strange and close to the initial concept of Homi Bhava, but how we can provide and can be open in this way to a neighbor relation, what kind of tools and thought we need to gather when we are dealing with our neighbors.
Donc, qu'est-ce que c'est que le voisinage? Qu'est-ce que c'est cette notion? Comment se construit le voisinage? Évidemment, l'exposition ne se limite pas juste à savoir qui est son voisin, mais simplement de voir des situations où les gens sont voisins ensemble. Il y a une première œuvre qui est une prison, en fait, dans l'exposition. La prison est un endroit d'analyse assez intéressant parce que les gens vivent dans un contexte très contraint.
Et là, on ne choisit pas ses voisins.
Et là, on ne choisit pas du tout ses voisins. Enfin, en général, on ne choisit pas ses voisins. Mais... Et... donc ça permet de mettre en exergue ces relations qui sont de l'ordre de la survie. C'est quand même important de le dire.
Alors j'évoquais tout à l'heure à propos de Homi Bhava ce regard sur les études postcoloniales, mais aussi à travers de très nombreux projets d'artistes qui sont proposés dans cette exposition, une réflexion géopolitique très présente. Je pense par exemple au travail de Jtodi Elat, au travail d'Akram Zaatari, au travail de Yael Bartana. Donc une réflexion, une critique politique et géopolitique qui est très présente. Et on rappelle à cette occasion que le Van Abbe Museum est un musée d'art contemporain qui comporte une collection d'art engagé très importante sur cette réflexion géopolitique qui est présente dans cette exposition. Maybe I translate.
Okay. It's interesting also related to the museum. The museum CAPC, it's a contemporary museum, considered as a contemporary. The Van Abbe considered as a modern museum, since it opened before and the collection. But time change and the perception about modernity and contemporarity change. So I think geopolitical question, because of the contemporarity, are become very actual. It's not anymore that we don't know what's happening across the border or in another place. It's part of our everyday life. It infects our politics, infects our economy. In this sense, I...
Just a second. il est important de rappeler que le CAPC est un musée d'art contemporain, le Van Abbe Museum est un musée d'art moderne, donc, parce qu'il a été fondé au début du siècle. Aujourd'hui, les choses évoluent, évidemment, et donc la modernité, la notion même de modernité a évolué, d'où le focus géopolitique de cette exposition, parce qu'effectivement, on sait ce qui se passe ailleurs, et il est important d'en témoigner.
But different cases in the exhibition, or different artists that keep coming from different places and staying under one collection, you create new relation between neighbors, or you create new neighborhoods. And this is what we try to do also in this exhibition. It's to create a neighborhood inside the museum. A museum as a neighborhood.
Montrer des œuvres qui viennent d'ailleurs, c'est une manière aussi de montrer d'autres formes de voisinage et de créer au sein même du musée d'autres formes de relations des spectateurs avec ces situations-là. Donc l'omission aussi de cette exposition, c'est de créer une forme de voisinage à l'intérieur même du musée.
Le musée comme une forme de voisinage, et peut-être pour conclure cette discussion, une question ouverte à toutes les trois, et je crois que c'est une affirmation du Van Abbe Museum, c'est le musée comme un espace public. Hein, ça va peut-être même au-delà de cette idée de voisinage. Alors peut-être toutes les trois, Barbara Rocci, Galita Ilat et puis Charlotte Lobard, sur cette idée du musée comme un espace public. The museum as a public space, not only neighborhood, but public space.
I think when we go to talk about public space, first we need to agree what we see and what we call public. Public in general, if we can think, you can relate it to development. One, you can relate it to the French Revolution, you know, the initiate. the other thing, it's the beginning of the 20th century with the development of the public relation. It's two different things how you deal with the public. So when we talk about the museum as a public space, we need to understand what we call public. And if the museum is a public space, it's also by the system of the museum. System in the museum system in Europe still considered as public because of the relation of to the city, the taxpayer, and the neighborhood. In the US, it's different.
Oui. Donc, d'abord, il faut s'interroger sur cette notion d'espace public et redéfinir la notion de public. Donc, évidemment, la notion de public, elle apparaît particulièrement avec la Révolution française. Elle va évoluer dans le temps. La notion aussi de relation publique est importante. Alors, cet espace public, c'est aussi lié à l'histoire des musées européens, qui sont effectivement des musées qui sont liés au pouvoir politique depuis leur naissance. Cette notion d'espace public dans le musée ne se pose pas du tout de la même manière pour les musées américains.
Barbara Rocci, le musée comme...
One sentence. I think in terms of the way that I will react about the museum as a public space, I think what the museum can give to the public is to experience... together, to get an experience together, to experience in a public space.
Donc pour terminer, effectivement, la notion d'espace public dans le musée comme espace public, c'est surtout pour Galit la possibilité de faire des expériences ensemble. Et c'est ce qui caractériserait ça.
Barbara Rocci.
On ne peut pas qu'être d'accord. Imaginez vraiment que les musées, c'est un lieu d'aujourd'hui, de tous les gens, pas seulement où aller voir... des choses de passé qui sont bien conservées, mais un espace qui on peut utiliser, comme disait le musée Van Abben, pour des choses, des expériences ensemble. Je laisse la parole.
Charlotte Lobard.
Juste, pour moi, le musée, c'est vraiment le lieu, enfin, en tout cas, j'espère que c'est le lieu où la communauté se rassemble, en fait. En tout cas, c'est mon espoir par rapport au musée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les lieux où la communauté se rassemble, ils ne sont pas tant que ça. Alors, vous avez la galerie commerciale, vous avez le stade de foot, voilà, il y en a l'église, ça se ressemble plus beaucoup à l'église. Donc, pour moi, ces lieux de production de culture que sont le musée ou d'autres lieux sont les seuls moments, finalement, où la communauté se rassemble. Et c'est très important qu'on travaille là-dessus.
Merci à toutes les trois, Galit Eilat, Charlotte Lobard et Barbara Rocci, pour avoir participé à ce second plateau, ce second éventail d'evento, où on était aujourd'hui en face du CAPC sur les bords de la Garonne. On va se quitter avec une création sonore réalisée par Christophe Modica. Nous étions hier place André Meunier, une place en plein travaux, de grands enjeux urbanistiques sur cette place. Eh bien, Christophe est allé placer quelques micros autour des marteaux-piqueurs et de ce qui se passait sur cette place. Et il nous en restitue l'ambiance en une petite pièce qui dure 6 minutes.
Constructif. Constructif, 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 constructif. Poétique et politique. Du sens. Du sens. Du sens. Du sens. Du sens. Comprendre et négocier avec eux. Du sens. Comprendre, comprendre sens. Comprendre, comprendre du sens. Comprendre. Le sens, du 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 sens, du
Création sonore de Christophe Modica pour conclure ce second plateau, ce second éventail d'Evento. Rendez-vous demain, nous serons sur la place Saint-Michel. On y accueillera notamment l'École des Beaux-Arts de Bordeaux pour un projet qui s'intitule Partie commune et nous aurons un focus sur la nuit des savoirs partagés. Ces émissions sont diffusées à 11h sur Radio Grenouille et sur Radio Campus Bordeaux. Et je vous rappelle que tout le programme des événements d'Evento est sur le site evento2011.org.